Club 31, l'émission qui vous dévoile les origines des incontournables de votre dressing.
Jean, perfecto, Ray-Ban, escarpins, bikini, salopette, robe de mariée, smoking.
Bonjour à tous, donc nous voilà une nouvelle fois ensemble et donc aujourd'hui nous allons parler comment de la robe de mariée, hein, d'ailleurs en fond là vous entendez donc la marche nuptiale de Félix Mendelssohn. Alors bien sûr, hein, mai-juin c'est la période des mariages, donc nous allons vous parler de cette fameuse robe de mariée qui est donc le vêtement traditionnel que portent les femmes le jour de leur mariage. Fréquemment, plusieurs accessoires, tels que des longs gants, le chapeau, bien sûr, le voile ou le bouquet fleuri, viennent compléter la composition, participant ainsi à rendre la mariée plus belle et porteuse, bien sûr, de tout un tas de valeurs symboliques. Et dans ces valeurs symboliques, on va retrouver la couleur blanche. Est-ce que Sophie, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi on met... du blanc.
Alors, pourquoi la couleur blanche ? La robe blanche réapparaît à la fin du 19e siècle par la volonté de l'Église, avec comme origine la robe des jeunes communiantes. Le blanc représentait la pureté, la virginité et l'innocence de la future mariée, ainsi que la perfection et la lumière. Donc, dès l'Empire romain, la future épousée est vêtue d'une robe blanche et parée d'une couronne de fleurs d'oranger. La femme gauloise devait porter une longue robe de lin ou de chanvre. La tenue de la mariée devait être colorée, car ce peuple maîtrisait parfaitement les techniques de teinture. Elle pouvait être complétée par des bijoux en bronze. Plus tard, au Moyen-Âge, l'usage voulait que l'on porte sa plus belle robe. Le blanc n'apparaissait qu'en simple ourlet. La future mariée ne portait pas une robe de mariée spécifiquement dédiée à ce jour J. Ainsi, dans les campagnes, le rouge est à l'honneur. Cette couleur obtenue... avec les...
les fleurs de Garance.
Fleurs de Garance étaient plus faciles à travailler par les teinturiers. La femme peut parfois porter une robe noire, notamment si le futur marié est veuf, même dans les milieux favorisés.
Voilà, hein, c'est ça, parce que même à l'époque, il fallait que ça puisse resservir. En plus, les robes, alors il n'y avait pas de robe bien spécifique pour ça. Alors, il faut savoir après, par exemple, qu'au XVIe siècle, hein, sous le règne de François Ier, les femmes avaient porté des vêtements brodés d'or, des fourrures et des boutons en or, hein, qu'on va retrouver donc sur les robes de mariage aussi. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de robe spécifique pour les mariages. Sous le règne d'Henri II, les robes sont fabriquées souvent par des tailleurs dans des étoffes lourdes, onéreuses, voilà, très chères, parce qu'il faut quand même montrer qu'on a de l'argent, hein, et qu'il faut montrer qu'on puisse se faire admirer par tous, en particulier dans ce jour. Alors là, on va avoir la fée des lilas, qui va nous donner quelques conseils. Alors là, en l'occurrence, ça donne les conseils à Podane, pour le fait qu'un père ne peut pas épouser sa fille, hein, ce que veut faire évidemment le roi dans Podane.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant, mais de grâce, oublier cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Voilà donc quelques bons conseils de la fée des Lilas. Donc effectivement, ça ne se fait pas d'épouser son papa, même si c'est le rêve de toutes les petites filles. Et puis, mais il faut savoir qu'il y avait des sociétés hein, où, comment les, notamment par exemple chez, dans l'Égypte ancienne, où les frères et sœurs se mariaient entre eux, puisqu'il fallait être du même niveau de sang royal pour pouvoir épouser quelqu'un. Donc évidemment, ça restreignait quand même beaucoup les choses. Quoi, voilà. Bon, donc là, on va revenir à la Renaissance. Donc là, la traîne du Moyen-Âge, elle a disparu. Les robes vont être coupées, toujours dans de lourdes étoffes, brocart, velours, souvent rebrodées de fil d'or ou d'argent. Et les femmes, elles portent ce qu'on appelle un vertu gadin. Alors en fait, vous savez, c'est une robe en gros canevas, bien raide, là, et qui fait gonfler. Là, ça va faire des robes très, très amples. Alors, la coiffe, il faut dire, elle est réservée au peuple. Hein. Et là, ce qu'on appelle les élégantes, c'est-à-dire les femmes qui sont issues de la noblesse, elles vont porter des résilles avec des perles pour maintenir les cheveux. Quant au règne de Henri III, les femmes vont porter des robes très amples, avec des manches énormes et des collerettes imposantes. Par contre, durant la monarchie absolue, les femmes qui sont à la cour du château de Versailles suivent la tendance et peuvent se marier dans de belles toilettes. Le mariage est souvent le moment d'entrer à la cour du roi. Donc les femmes vont porter des robes longues, claires, avec des dentelles et des tissus vaporeux. Voilà, ça s'allège un peu là déjà. Hein. Et lors d'un mariage royal, par exemple, la mariée peut se vêtir d'une longue cape pour couvrir ses épaules, de couleur bleue, bien entendu, puisque c'est l'emblème de la royauté.
Voilà, donc c'est à partir de l'Empire et surtout de la fin du 19e siècle que le blanc s'impose, même si ce fut Marie Stuart Ier, dite Marie Ière d'Écosse, qui fut la première à porter une robe blanche lors de son mariage avec François II. En 1558. La raison était simple, le blanc était la couleur de sa famille, les ducs de Guise. Peut-être doit-on aussi ce retour à la reine Victoria, toute de blanc vêtue lors de son mariage en 1840 avec le prince Albert de Saxe. Ce mariage eut une grande influence sur les coutumes du mariage. En 1840 est donc une date cruciale. 1840 est donc une date cruciale dans l'histoire de la robe de mariée. C'est depuis cette date que la robe de mariage est une institution. Sous la forme que nous la connaissons. À la manière des mariages des stars actuels, la robe de Victoria devint un modèle classique que l'on nomme aujourd'hui robe d'inspiration victorienne. En effet, avec un mariage en grande pompe, la reine Victoria va avoir une grande influence sur les mariages princiers à venir. Elle portait une robe en satin blanc pour symboliser sa pureté, avec un voile garni de fleurs d'oranger. Sa longue robe forme princesse est dotée d'une traîne soulevée par de nombreuses demoiselles d'honneur. Les épaules dénudées, elle porte une couronne de fleurs dans les cheveux. La robe est richement décorée, ce qui ouvre la voie vers des robes très volumineuses et avec un grand nombre d'accessoires. La reine Victoria continuera à porter des robes dans un modèle similaire à sa robe de mariée au quotidien.
Voilà, c'est-à-dire qu'elle avait des robes dans la même forme, mais de toutes les couleurs, avec des variantes un petit peu différentes. Et après le décès de son mari, elle ne portera que des robes noires, mais toujours sur le même modèle de sa robe de mariée. Voilà.
Tout à fait.
Donc maintenant, on va écouter la marche de fiançailles de Richard Wagner dans Lohengrin. Voilà, donc en fait, à cette marche de fiançailles de Richard Wagner, qu'on va retrouver dans, donc, dans l'opéra Lohengrin, bah, elle ressemble quand même beaucoup à la marche nuptiale de Felix Mendelssohn qu'on entend là en fond. Voilà. Donc en fait, c'est deux marches différentes et qui vont servir en fait. Alors voilà, maintenant j'ai un trou, mais je sais plus, il y en a une qui sert beaucoup dans les pays anglo-saxons et l'autre qui va servir plutôt dans les mariages en France. En fait, je pense que celle dont on sert en France, c'est celle de Wagner. Et dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt la marche nuptiale de Mendelssohn. Voilà. Donc,
Alors, repassons à la robe de mariée. Donc, la robe de mariée de l'impératrice Elisabeth de Wittelsbach, dite Sissi, reste également une référence dans l'histoire de la robe de mariée. Elle correspond parfaitement au standard de la robe de la reine Victoria. La robe de mariée originale est d'ailleurs conservée dans un lieu secret.
Voilà, personne ne sait où elle est cachée. Et donc celle qui est en fait exposée au musée à Vienne, c'est pas celle c'est pas la vraie. C'est un facsimilé.
La mode fut donc de suivre l'exemple royal. Cette tendance va rapidement se propager dans les milieux aisés, puis devenir une institution dans toutes les classes au cours du XXe siècle.
Alors à partir des années 1900, en fait, le mariage va devenir une réelle fête avec tout un tas de traditions et de coutumes. Et donc dans les années folles, les femmes vont porter de longues robes blanches avec des broderies et de la dentelle. La coupe est ample et évasée avec des matières fluides et très légères. Même si elle peut être décolletée, elle reste quand même assez androgyne vu que la taille n'est pas marquée et qu'elle est simplement descendue sur les hanches. Elle est richement décorée. La robe peut être ornée de sequins, de strass ou de perles fantaisie avec des motifs graphiques dans une tendance art déco, évidemment, puisqu'on est en plein dedans. La tenue est marquée par des accessoires, et notamment des accessoires pour les cheveux, hein, des headbands, des diadèmes, des peignes, des voiles, sur lesquels on va ajouter des plumes. Par contre, bien sûr, durant la Seconde Guerre mondiale, la robe de mariée est réduite au plus pur minimalisme en raison de la pénurie de tissus. Il y a même parfois des robes qui vont être fabriquées donc dans de la toile de parachute. Les femmes, elles achètent bien souvent à tailleur, hein, parce que du coup, elles vont pouvoir le réutiliser au quotidien dans les mois qui suivent. Et puis, les robes vont raccourcir aussi, hein, vu le manque toujours de tissus. Et puis, les couturiers, hein, comme Christian Dior, vont revenir aux longueurs. Et dans les années 60, on voit l'âge d'or de la robe ample évasée jusqu'aux pieds. Et bien sûr, celle qui va remettre à la mode cette robe un peu style princesse, c'est la robe de mariée de Grace Kelly, donc la princesse de Monaco, qui va inspirer la mode nuptiale pendant longtemps, alors que bien sûr, comme on en a parlé dans l'émission précédente, les mini-jupes apparaissent.
Voilà, et dans l'effervescence qui suit mai 68, un certain anticonformiste apparaît et des mariés, surtout lors des mariages civils, se présentent à la mairie en costume de tous les jours, voire en pantalon ou en mini-jupe. Dans cette hésitation des styles, le mariage de Lady Di et Charles d'Angleterre provoque l'apparition d'un modèle ressemblant quelque peu à celui des années 50. Jupe évasée, broderie et perles, ce modèle va faire les beaux jours des grands distributeurs. Certains modèles lourdement chargés donnent parfois aux jeunes femmes, souvent issues de milieux populaires, l'impression qu'elles sont les princesses d'un jour. Bien sûr, Cendrillon a aussi quelque peu contribué au mythe. Au début des années 90, la mode revient un peu plus de sobriété et la couleur fait son grand retour. D'abord quelques touches florales pastel, puis les créateurs osent un tissu entièrement coloré. Rouge, parme, etc. La couleur dans la robe de mariée était il y a quelques décennies réservée, voire imposée aux femmes ayant fauté avant le mariage. Donc, de nos jours, la robe de mariée est également le symbole de clôture des défilés pour la haute couture, ce rituel étant introduit par Christian Dior dans les années 50.
Voilà. Alors c'est vrai qu'en même temps, les robes de couleur, chez les mariés, on n'en voit quand même pas tant que ça. Hein. C'est quand même le blanc qui reste très traditionnel.
C'était plus années 70. Quoi.
Voilà, c'est ça. Où là, on voyait aussi des robes un peu de façon hippie, hein, tout ça. Il y avait tout un tas de modèles comme ça. Il y avait aussi des mini-jupes, hein, bien sûr. Dans les années 68, 70, etc. Mais bon, c'était, c'était assez... ça reste quand même assez traditionnel. Alors, donc maintenant, là, on va vous passer une musique, vous allez voir, où on va vous conseiller, là, de finalement, bah, ne pas vous marier. Hein.
De bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin. Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au coin, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet.
Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux.
Quand ils sont grands, ils sont feignants.
Quand ils sont petits, ils sont méchants.
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Faites plutôt du cinéma.
Restez pucelle chez votre papa.
Devenez serveuse chez un bougnard.
Élevez des singes, élevez des chats.
Vendez des boîtes de chocolat.
Prenez le voile, vous le prenez pas.
Dansez à poil pour les gagas.
Soyez radieuse, avenue du bois.
Mais vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole.
Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence?
Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils ont fort, ils font du sport.
Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche.
Quand ils sont durs, ils vous torturent.
Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Mettez vos robes de gala,
allez danser à l'Olympia.
Changez d'amant 4 fois par mois.
Prenez la braise et gardez-la.
Cachez la fraîche sous vos matelas.
À 50 ans, ça servira.
À vous payer de vos petits gars.
Rien dans la tête, tout dans les bras.
À la belle vie, ça sera, ne vous mariez pas.
Voilà le grand orchestre du Splendide qui interprète « Ne vous mariez pas les filles », donc une chanson de Boris Vian. Voilà, donc Boris Vian était plein de bons conseils, hein, finalement, par rapport au mariage. Alors, je crois que cette chanson, elle a été reprise par... je ne me rappelle plus qui, mais enfin, ça a été fait plus récemment, donc avec des paroles un peu arrangées, pour que ce soit plus d'actualité. Et voilà. Alors, il faut savoir que, bien sûr, il n'y a pas que par chez nous qu'on va se marier. Hein, et donc, dans d'autres pays, comme la Chine ou l'Afrique, la couleur blanche, là, elle est plutôt associée au deuil et à la mort. Et donc, on ne va donc pas porter du tout de blanc pour les mariages. Et il y a certains pays, comme les pays asiatiques, qui vont être partagés hein, entre modernité et tradition. Donc, les mariés d'aujourd'hui vont porter une robe de mariage blanche, mais elles portent aussi le hanfu, donc qui est la tenue rouge traditionnelle du pays. Par contre, au Maghreb, la tradition veut que la mariée change plusieurs fois de costume lors des noces, qui souvent vont durer plusieurs jours. Alors, en mémoire, il me semble que c'était 7 robes, mais bon, Sophie n'a pas l'air très sûre non plus, elle me dit...
Ouais, je crois.
Ah, mais il me semble que c'est voilà qu'il faut porter 7 robes différentes au cours de ces festivités. Alors au Sénégal, par contre, le boubou va être très décoré. Il va être assorti à celui du marié, bien sûr, hein, pour que ce soit plus élégant. Donc aux Antilles, le tissu madras continue de parer de nombreuses robes de mariée. Et en Roumanie, par exemple, la tradition voulait que la mariée tricote elle-même sa jupe de mariée en laine. Bon, alors c'est vrai qu'en Roumanie, il ne fait pas très chaud. En hiver, en tout cas, l'été, porter une robe de mariée en laine, ça doit être...
Ça intéresse à savoir tricoter.
Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut s'y prendre à l'avance hein, pour tricoter sa robe de mariée. Alors, par contre, par exemple, chez les Amish, aux États-Unis, la tenue de mariage traditionnelle est bleue. Hein, voilà. Donc, alors, est-ce que, par exemple, Sophie, tu peux nous donner quelques conseils pour... lorsqu'on est invité à un mariage, ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
En tout cas, il faut éviter de porter une robe blanche. La mariée doit être la plus belle. Hein. Seules les jeunes filles d'honneur peuvent porter une robe blanche moins somptueuse, évidemment, que la mariée.
Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas faire concurrence à la mariée. C'est quand même de mauvais goût. Hein. Ouais. Voilà. Donc, alors, si vous voulez, on va écouter la bande-annonce d'un film qui s'appelle « Quatre mariages, un enterrement », où là, avec toutes les gaffes à ne pas faire lors des mariages, surtout si c'est vous qui êtes le témoin du marié.
Il est quelques ingrédients qui sont indispensables pour réussir un bon mariage. Du tact.
Alors John, comment va ta somptueuse copine?
Ce n'est plus ma copine.
Ah. Dans le fond, c'est pas plus mal. Il paraît qu'elle se faisait culbuter par Toby de Lille au cas où tu l'aurais plaqué.
Maintenant, c'est ma femme.
Un garçon d'honneur discret.
Lorsque Bernard m'a annoncé qu'il avait choisi Lydia, je l'ai félicité pour ce choix, car ses autres fiancés potentiels étaient plutôt craignos. Cela dit, nous sommes ravis qu'elle soit si nombreuse parmi nous ce soir.
Des invités courtois.
Bonjour, je m'appelle Charles.
Ne dites pas de bêtises, voyons. Charles est mort il y a 19 ans.
Ah bon? Vous parlez d'un autre Charles sans doute.
Est-ce que vous prétendez que je ne connais pas mon frère?
Non, non.
Un prêtre chevronné.
Lequel vit et règne à vos côtés et le Saint-Esprit. D'esprit.
Et une mariée très tendre.
Oui.
Un film porteur d'un message. Ne vous mariez pas. À moins de tomber éperdument amoureux. Hugh Grant et Andy McDowell vous invitent à Quatre mariages et un enterrement, le nouveau film de Mike Newell.
Par Dieu Tout-Puissant, je bénis cette union au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Donc voilà, quelques bons conseils ou non. Alors j'espère qu'on ne vous aura pas trop dissuadé quand même de ne pas vous marier, parce qu'on a quand même donné, passé quelques chansons dans ce sens-là. Après, c'est vrai que ça reste toujours, paraît-il, le plus beau jour de la vie d'une femme. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas passée par là. En tout cas, voilà, c'est vrai que ça fait rêver pour les robes, ne serait-ce que d'avoir un jour une belle robe de princesse. Alors, je ne sais pas si Sophie, ça te fait envie d'avoir une belle robe de princesse. Non, ça te fait pas envie? Ou même en mini-jupe ou en pantalon? Ça a été la mode dans les années 70, c'était le tailleur pantalon pour aller à l'église.
Faut voir.
Non.
Ah ben, on verra bien.
Bon, voilà, oui, on attend encore de voir ça. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter un petit peu comment la marche nuptiale de Mendelssohn. Et donc, on va se retrouver en fait la prochaine fois. Et là, comme on sera bientôt au bord de l'été, on parlera du bikini. Alors, à bientôt.
À bientôt.